Il y a un ciel d'encre là. C'est magnifique. Je le vois à travers la fenêtre. À l'est. Et en même temps, il y a la lumière du soleil qui vient de l'ouest, qui passe par-dessus la maison. Je suis chez ma mère là. Qui projette l'ombre des arbres nus là, sur le mur de la maison du voisin. Et c'est superbe, voilà. Donc, alors dès que le soleil est caché par les nuages, hop, ça redevient gris au fond. Ça annonce la pluie. Mais j'aime bien la pluie, moi. Je trouve pas ça triste. Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde. Les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie. J'adorais cette chanson. Voilà, là c'était juste pour vous dire ça, quoi. Allez, salut.
J'appelle car il y a juste là, il y a quelques secondes, je viens d'entendre une dame vénézuélienne critiquer votre émission. Je suis un ancien exilé politique chilien. C'est très drôle, parce que cette intervention m'a ramené à peu près à 32-33 ans en arrière, à l'époque où les dames de la petite et moyenne bourgeoisie chilienne, ou celles qui avaient du pognon, disaient exactement les mêmes saneries au sujet de Salvador Allende. C'est quand même curieux que les gens, 30 ans après, en Amérique du Sud, la bourgeoisie n'a toujours rien compris à ce qui se passe chez eux. Donc je tenais à les dire, c'est une réaction un peu à chaud. C'était Edmundo Dorfer. Au revoir.
Je reviens sur l'émission de vendredi dernier où tu évoquais les deux jeunes créatrices de télévision locale chaviste au Venezuela. Cela m'a rappelé l'époque des radios libres en France au début des années 80. On n'avait pas de pioche en 1981, mais c'était un peu la même aventure. On parcourait les toits de Paris pour y installer les antennes radio. Je voudrais laisser un message aux Vénézuéliens qui nous écoutent. Je voudrais leur dire qu'ils ont 3 ans pour se faire plaisir, pour faire passer le vent de la liberté. 3 ans, c'est le temps qu'il aura suffi en France aux radios commerciales pour se partager les cendres du paysage radiophonique. Depuis, 5 groupes privés, plus Radio France évidemment, possèdent 95% de l'audience de la bande FM et en profitent pour déverser leur bouillie sans que quiconque ne s'offusque de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut être rassuré, on a la météo et les cours de la bourse tous les quarts d'heure. On a les mêmes journalistes formatés sur toutes les fréquences. On a les mêmes pubs, les mêmes guignols pour animateurs. Les mêmes tubes, les mêmes tranches horaires, les invités s'invitent entre eux. Allez les chavistes, profitez-en pendant 3 ans. Après, vous pourrez parodier avec nous la chanson de Ferrer. C'était pourtant bien le Sud. Ça ressemblait à l'Italie, celle d'avant Berlusconi.
Eh ben, une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un message d'insulte, mais de félicitations. Malheureusement, pas pour toi, mais pour Pascal Pascariello, qui a modestement réussi son examen de passage aujourd'hui avec son reportage sur Louise Michel. On est rassuré, ta succession est assurée. Voilà, continue encore longtemps comme ça. Et c'était Frédéric, les sardines à Marseille. Ciao.
Oui, salut Daniel, salut à toute l'équipe. Voilà, je voulais vous remercier pour cette émission, enfin cette partie d'émission sur Louise Michel. Ça fait vraiment plaisir, et même si c'est parce que c'est le centenaire de sa mort. Enfin bref, on s'en fout de ça. L'important, c'est qu'on en parle aussi. Et ouais, puis c'est pour une fois qu'on parle des anarchistes à la Bastille, j'y suis, on va pas se plaindre.
Daniel, salut, c'est Michel de Lyon. Je viens d'entendre à l'instant le coup de gueule de cette femme artisan, coup de gueule tout à fait légitime et justifié, et qui se plaint des privilèges des fonctionnaires, instituteurs, agents hospitaliers et consorts. Ce que je voudrais dire à cette femme artisan, dont je connais évidemment, ou dont j'imagine plutôt l'emploi du temps rocambolesque, c'est que ce n'est pas parce que les artisans se font racketter par l'État, et par les impôts, et par les URSSAF, et par les taxes, et que sais-je encore, qu'il faut que les fonctionnaires soient également racketés par l'État. Donc il ne faut pas se tromper de combat. C'est d'abord le combat contre le non-racket de toute activité, et dont les artisans. Voilà, je pense que chaque combat est très légitime, et chaque combat n'efface pas la qualité et la légitimité de l'autre. Salut Daniel.
On est dimanche soir, on vient de voir. Monsieur Raffarin à la télé, sa femme, Yves Duteil, qui chantait Prendre un enfant par la main, Daniel Mermet, je n'en peux plus, je vais quitter la France. Je hais Michel Drucker et ses émissions, et Raffarin qui chante avec sa femme, et Yves Duteil, et tous ces pauvres cons du dimanche soir. Prendre un enfant par le cœur, pour soulager ses malheurs, pour qu'il en a la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Voilà, c'était Madame Raffarin avec Yves Duteil, dimanche soir sur France 2, reçue par Monsieur Drucker. Vive la télévision publique, vive Michel Drucker, vive Monsieur Raffarin, vive Yves Duteil, youpi ! Au revoir Daniel.
Je voulais juste dire à Monsieur Raffarin que moi, j'ai la « je t'emmerde » attitude. Et je dis pas que c'est bien, mais en tout cas ça défoule. En tout cas, merci pour votre superbe reportage au Venezuela. Ça remonte un peu le moral dans l'ambiance actuelle. Voilà, c'était Serge d'Aix. Au revoir.
Bonjour, c'est Anne-Marie, prof dans les Yvelines. Jeudi soir, en revenant de la manif, j'apprends que Raffarin, s'inspirant d'une chanson de Laurie, recommande aux Français la positive attitude. La positive attitude. La tête haute, les yeux rivés sur le temps, et j'apprends à regarder droit devant. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je veux montrer ma bonne volonté, et je recommande la positive attitude à mes élèves de première. Explosez de rire. Il paraît que Laurie, ça passe encore à la rigueur en cours élémentaire. Comme je suis professeur de sciences physiques, ils préfèrent que je leur parle de la mission Cassini-Huygens de Titan et d'André Braik. Mais dites, ils ne s'arrangent pas les jeunes, on leur donne des stars et ils veulent des étoiles. Eh bien moi, monsieur Raffarin, j'adopte la positive attitude. Parce que dans ma spécialité, je suis largement aussi brillante que Laurie. Et je mérite le même salaire. Au cas où vous n'auriez pas écouté la chanson jusqu'au bout, je vous lis les paroles exactes. La rage au ventre, je suis prête à tout surmonter. Maintenant, je ne veux plus jamais renoncer à la positive attitude.
Et il y en a plein comme ça, des messages sur la positive attitude, sur cette gentille Madame Raffarin qui chante si gentiment et si joliment. Vous êtes ingrat. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est un peu mal à l'aise parce que on continue la balade au Venezuela. Là, on sort de Caracas et on va se balader dans la forêt amazonienne, dans la grande sabana. Mais quand même, on trouve ce pays plutôt sympathique. Mais quand même, le dimanche, c'est pas Drucker, c'est le président de la République lui-même qui fait à peu près ce que Madame Raffarin a fait hier. C'est-à-dire que pendant des heures, dans cette émission qui s'appelle Allo Presidente, eh bien, le président de la République lui-même, Hugo Chavez, fait ça, chante, raconte des histoires, parle avec le public. Alors, c'est merveilleux, il est formidable, ce Chavez, etc. On trouve que Madame Raffarin, c'est démago, et là-bas, ça ne l'est pas. Voilà, petite contradiction pour commencer. D'autres messages nombreux sur un message. Mais alors, vous vous répondez de message en message, on ne peut pas continuer, sinon nous, on n'aura plus de boulot du tout. Mais enfin, quand même, là, il y a eu de nombreux messages pour répondre à un message d'une auditrice, je crois que c'était vendredi, une artisane, qui disait, oui, nous on est artisans, on fait beaucoup d'heures, on bosse beaucoup, on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas des enseignants, tatata, tatata. Et alors ça a été une quantité de messages d'enseignants, de fonctionnaires, et ça illustre bien, enfin on l'a entendu, cette division soigneusement entretenue entre deux catégories de Français. Voilà, on part pour le Venezuela. Je vous rappelle le numéro du répondeur, mais vous le saviez déjà, 01 56 40 37 37. En route.
Econe canto, está chimpanto. Econe canto, está chimpanto. Mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao, avec Guy Van Til. Là-bas, si j'y suis, Venezuela, Canaille.
Flight number two, arriving from...
República Bolivariana de Venezuela.
Là-bas, si j'y suis.
Est-ce que
c'est mes chaussures, ça.
Ya, te presento ahora. Ok, voy.
Ferme la fenêtre quand même.
Quel avion es este?
Cessna 206.
Un Cessna 206.
Ah, ah. ¿Cuántos años tiene?
Quel âge il a?
20 y pico, tener. Pero los motores se cambian cada 1700 horas.
Il a une bonne vingtaine d'années, mais on change le moteur de temps en temps.
De temps en temps.
Il marche impeccable, hein.
Quart
de tour.
Le quart
d'hélice, il est parti.
Bon, il n'y a pas la peine de se mettre les ceintures, il n'y en a pas, de toute façon. Et où est l'hôtesse de l'air?
Voilà, à bord de ce petit avion, on s'envole vers le sud-est du Venezuela, vers une région qui s'appelle la Grande Sabana. Exactement, on va à Canaima. Canaima, c'est un endroit, mais splendide. On a complètement oublié de vous dire, chemin faisant, que le chemin à faire est magnifique. C'est un pays superbe, le Venezuela. Allez-y, promenez-vous au Venezuela avec quelques mots d'espagnol, ça suffit. Et il y a une multitude, effectivement, non seulement de peuples, de gens, de pays, de paysages, de villes. C'est une vraie merveille. Là, la région vers laquelle, et des paysages très très différents qui vont de la cordillère, qui vont la côte, la mer. Et là, on va vers la forêt. On va vers la forêt, on va vers la savane, on va vers cette forêt dense de l'Amazonie. Paysages qu'on connaît, ceux qui connaissent la Guyane, ceux qui connaissent le nord, ouest du Brésil, connaissent ces régions et ces paysages. Et là, on va dans un endroit qui s'appelle Canaima, auquel on arrive qu'en avion. Alors, on pense toujours que s'il n'y a pas de route, eh ben, il n'y a que des avions. Mais non, il y a aussi les fleuves. Et la navigation a été très importante pour le peuple qui est présent dans cette région, qui sont des Pemones. Le Venezuela, c'était d'abord des Indiens, c'était d'abord des indigènes, comme on dit, et il existe dans le pays, dans le Venezuela, au moins 28 ethnies, c'est-à-dire un peu moins de 350 000 personnes, qui représentent 1,5% du total national, et cette population se trouve répartie dans 8 entités fédérale et se concentre majoritairement dans des zones frontalières. Là, c'est la frontière avec la Guyane. Il y a un conflit qu'on évoquera peut-être. On n'est pas très loin des lieux où vivent les Yanomami, les fameux Yanomami. On va évoquer toutes ces images, tous ces lieux, toutes ces personnes à travers cette heure qu'on va passer ensemble, une heure assez enchantée, assez enchanteresse. Il faut quand même garder cette capacité, ce plaisir de l'étonnement. On finirait par l'oublier. On est tellement inquiet d'user notre indignation ou de manquer d'indignation qu'on oublie tout simplement le plaisir tout simple de voyager, de s'étonner aussi d'ignorer. Parce que là, effectivement, c'est des endroits que nous ne connaissons pas et c'est un plaisir ancien et neuf à la fois.
Pero no será conmigo.
El Mundo Perdido. Le Monde Perdu, c'était le titre d'un livre de Conan Doyle. Vous voyez, l'inventeur de Sherlock Holmes. El Mundo Perdido. Il a écrit un livre qui a eu un grand succès et qui a envoyé beaucoup de voyageurs comme nous vers la région où nous trouvons, nous allons, la Grand Sabana. Pourquoi El Mundo Perdido? Parce que il y a dans cette région un phénomène étonnant, ce sont les tepuyes. Les tepuyes, c'est un mot, c'est le premier mot de Pemon, donc la langue locale que nous apprenons. Et qu'est-ce que c'est que des tepuyes? Eh bien, ce sont des montagnes qui ont un profil particulier. Si vous demandez à un enfant de dessiner une montagne, il va y dessiner un triangle, hein. C'est un triangle, une montagne. Eh bien là, pas du tout, c'est un rectangle. Imaginez un rectangle posé sur la forêt. Voilà à quoi ressemblent les tepuyes, c'est-à-dire des massifs rocheux aux parois perpendiculaires à la Terre, à la planète, et avec un sommet qui est aplati. Et qui peuvent être très hautes, ces montagnes peuvent être très hautes. Le mont Roraima, par exemple, atteint 2810 mètres. Si bien que au 19e siècle, lorsque des biologistes, des spécialistes des plantes et des animaux, de la flore et de la faune sont arrivés dans cette région, ils ont dit « Ah, sur ces hauteurs, eh bien, il y a des espèces animales et des espèces végétales qui sont sans lien avec le reste du monde et qui n'ont pas connu la même évolution. » D'où une passion pour ce monde perdu. Et on a essayé de grimper sur ces montagnes qui sont très très anciennes. C'est les plus anciennes formations géologiques du monde. Les concrétions granitiques qu'on peut observer quand on les survole aujourd'hui datent de 2 milliards d'années. Et on n'a pas trouvé ce que ces scientifiques avaient supposé. Il n'y a pas en fait d'une telle différence. Même s'il y a, on est en train de parler de la biodiversité, des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais il n'y a pas deux cycles d'évolution distincts. Mais l'histoire de ces fameux tepuyes, c'est l'histoire de Jimmy Angel. Et ça, si vous allez dans cette région, on vous la racontera forcément, parce que c'est une histoire entre l'histoire vraie ou pas, on ne sait pas très bien, mais ça n'a aucune importance. C'est l'histoire d'un Américain qui s'appelait Jimmy Angel. Ça, l'histoire est datée de 1935. Il a bel et bien existé, ce gars-là, vous allez voir. Et il était pilote dans cette région. Il y avait déjà, comme le Cessna qu'on vient de prendre, on se déplaçait sur des petits avions, des petits monoplans. Et Jimmy Angel, il pilotait son Flamingo. C'est un petit monoplan. Il n'avait pas tellement de boulot. Il gagnait chichement sa vie. Et puis un jour, il était comme ça, s'ennuyant un peu au bar d'un hôtel, il y a un Mexicain très riche qui vient le voir et qui lui propose un marché. Il lui offre $5,000 s'il se montre capable de le poser sur un tepuy, à la surface d'une de ces montagnes. Et Jimmy Angel, le pilote, accepte. Et les voilà qui montent tous les deux. C'est un voyage mouvementé, évidemment. Ils finissent par se poser, c'est très difficile. Et ils sont sur un tepuy à 1000 mètres d'altitude. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez bien qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ils ont emporté une pelle et une pioche. Ils se mettent à creuser et en 3 jours, ils ramassent 30 kilos d'or. Parce que, évidemment, c'est une région aurifère, c'est la région des fièvres de l'or, c'est la région de l'or. C'est toujours le cas aujourd'hui, on en parlera. On ira avec Antoine et Guy à Eldorado, ce qui dit tout. Donc, en 3 jours, ils ramassent 30 kilos d'or. Et ils reviennent en disant, on pouvait pas ramasser plus, on avait peur de trop charger l'avion. Donc, ils vivent chacun avec son l'or qu'il a ramassé. Et puis un an après, le Angel en question, Jimmy Angel, il retourne avec sa femme, avec un géologue et avec l'assistant du géologue. Les voilà tous les quatre qui repartent pour retrouver évidemment l'endroit en question. Et puis très souvent ces montagnes sont ennuagées, il y a des nuages, donc ils se perdent, ils ne trouvent plus, et finalement ils se posent sur un tepuy, mais c'est pas le bon, c'est pas le même, c'est un tepuy qui est beaucoup plus haut,
qui s'appelle la montagne du diable, c'est-à-dire Ohian Tepui, et il se pose, mais dans le brouillard, dans la brume, l'avion s'embourbe, il casse une roue, c'est la catastrophe, plus d'avion, et pas d'or, évidemment, mais la question c'est plus de trouver de l'or, c'est de sauver sa vie. Alors, des jours d'inquiétude, d'angoisse, aucune habitation, je veux dire aucune présence humaine, et ils ont décidé de redescendre du haut de cette montagne. Ils ont mis plus de 11 jours pour descendre et d'atteindre un lieu habité. Et voilà. Mais au passage, et c'est ça le plus important de cette histoire, c'est qu'ils ont découvert la plus haute cascade du monde, une cascade qui fait 1000 mètres de haut, 1000 mètres, et que depuis on appelle Salto Angel, c'est-à-dire la chute de l'ange. Et l'avion en question, El Rio Caroni, il s'appelle comme ça, est resté sur le sommet de cet époux jusqu'en 1970. Ensuite, on l'a déplacé. Il est visible quand on arrive à l'aéroport de Caracas. Voilà l'histoire, une des légendes fondatrices de la période moderne, évidemment, de cette région. Les histoires plus anciennes, les mythes plus anciens, beaucoup plus profonds, beaucoup plus riches, beaucoup plus forts, eh bien c'est les Pémones eux-mêmes qui les racontent et qui nous les racontent. On navigue là sur un lac, enfin sur un oui, une grande étendue d'eau qui est bornée par des chutes bouillonnantes, et on est avec Achira.
Esta playa para allá era una tierra sagrada.
Mais tu sais que cette plage là où justement tout est construit maintenant, auparavant c'était une terre sacrée.
Pero llegó los extranjeros y pusieron el hôtel ahí.
Et les étrangers sont venus, ils ont construit leur hôtel dessus.
Ça c'est Renault là, hein. C'est le congrès des distributeurs Renault.
Les commerciaux Renault d'Espagne qui sont venus à 80 personnes, donc 4 avions pour venir jusqu'ici.
Vous savez que esto de aquí era sagrado porque era sitio de purificación de las personas.
C'était un rituel de purification qui se faisait ici. C'est pour ça que cette terre-là et cette plage étaient sacrées.
Por ejemplo, cuando las niñas iban a convertirse en mujer, se les venía aquí como a bañarlas y se les cortaba el pelo.
Par exemple, comme les jeunes filles, il y avait plein de rituels quand les jeunes filles devenaient des femmes.
Sí.
Elles venaient ici pour se baigner dans un rituel de purification. On leur coupait les cheveux.
Si, se le colocaba como una especie de tapar la cabeza.
De quel color?
Así como rojo.
Teintaient les cheveux avec des racines, avec une qui donnait une couleur rouge aux cheveux.
Y entonces esto era para eso, para hacer ritos.
Et c'est donc tous ces rites-là avaient lieu ici. Là, on est en train d'accoster maintenant.
Entonces los abuelos decían que esto era un sitio muy privilegiado.
Les ancêtres avaient dit que c'était un endroit très spécial.
Y al construir todo esto, dicen los abuelos que por eso los saltos, los cerros se vengaron ahogando a las personas en el río o se cayeron avionetas con pasajeros.
Et après, on a construit tous ces bungalows ici, et les ancêtres ont dit que les montagnes se sont vengées, et c'est pour ça qu'il y avait des avions qui sont écrasés. Des gens qui sont noyés parce qu'on avait violé ce lieu sacré.
Ouais, donc ça n'a pas été accepté facilement, cette histoire d'installation d'un site touristique.
Non.
C'était quand ça?
Eso fue en el año 70.
70.
Et aujourd'hui, ahora, c'est apaisé.
No hay conflicto. Por ejemplo, en la Guardia Nacional aquí, tiene que hacerle caso al cacique. No, la Guardia Nacional no puede tomar decisiones.
Non, il n'y a plus de conflit parce que maintenant il y a un accord qui est tombé où quand on fait appel à la Garde nationale ne peut pas prendre de décision, ne peut pas intervenir sans en référer d'abord au cacique, au chef local.
Uh-huh. Sí, porque las leyes étniques, las leyes indígenas no se parecían a las leyes nacionales.
Parce que bien sûr les lois ethniques, les lois de notre ethnie et de notre peuple ne sont pas les mêmes que les lois nationales du pays.
Y entonces en nuestra costumbre no hay presos, no hay prisioneros.
Par exemple, dans notre coutume, il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de peine de prison.
Voilà des gens cultivés dont la culture est évidemment
menacée. Et c'est une lutte longue que celle des Indiens, là en l'occurrence les Pemones de cette région du Venezuela. Et tous pourraient se résumer dans les deux prénoms de cette femme charmante, belle comme tout, qui nous dit, moi j'ai deux noms, je m'appelle Casilda et Cachira. C'est-à-dire, j'ai un nom en espagnol, et puis j'ai un nom Pemone. Et voilà, cette double culture peut résumer ces Pemones essayent d'être, c'est-à-dire des résistants. Ces gens qui résistent. Hein, c'est la destruction, l'ethnocide que ces Indiens ont subi, enfin comme tous les Indiens des Amériques, et puis toutes les agressions qu'ils ont eues à subir, des missionnaires, et aujourd'hui, ben, le tourisme. Alors comment composer avec le tourisme, puisqu'ils sont, vous avez compris, ils sont partie prenante de ce tourisme. Et on vient de nous parler du cacique, c'est-à-dire du chef traditionnel. Et des accords ont pu intervenir pour que, entre la justice ou les lois telles qu'elles sont faites par l'État du Venezuela et les coutumes, on trouve un accord. C'est pas facile du tout, au point que le gouvernement du Venezuela a décrété, le nouveau gouvernement du Venezuela a décrété le 12 octobre comme jour de la résistance indigène. Et c'est le mot qui correspond le mieux, résistance. Résistance à quoi? Ben, résistance aux missionnaires, j'en ai parlé. Résistance au tourisme. Résistance aux orpailleurs. J'ai évoqué ces chercheurs d'or qui sont pas toujours des gens très très pittoresques et très sympathiques, dans la mesure où il y a des multinationales qui sont intéressées par l'or dans la région et qui nous évoquent tout ça. Et ben c'est le cacique lui-même, c'est-à-dire le capitaine, c'est-à-dire José Simón, l'époux de Casilda Cachira. Ce grondement, c'est les chutes, hein, c'est magnifique, on est dans un paysage magnifique, un bouillonnement, c'est un vrai paradis, et on est avec
José Simón, le capitaine.
José Simón, qu'est-ce que c'est être le capitaine?
Ser capitán es ser el máximo representante en una comunidad indígena.
Donc c'est d'être le plus grand représentant dans une communauté indigène.
O sea, hay 8 capitanes generales.
Il y a 8 capitaines ici, o sea, dans les communautés.
Hay capitanes comunales, comunidades pequeñas.
Il y a des capitaines des petites communautés.
Sí. Y hay un capitán general por sector más grande.
Il y a un capitaine général par secteur.
Vous êtes élu, il y a un système d'élection dans votre communauté?
Sí, la elección es democrático.
L'élection est démocratique.
La comunidad elige los candidatos y por voto secreto se hace la elección.
Donc la communauté choisit les candidats et par vote secret elle élit le candidat.
Y dura 2 años el tiempo de mando.
Et le mandat dure 2 ans.
Alors nous, on est en train de vous dire que c'est un paradis, que vous habitez dans un paradis, mais vous nous dites quand même, oui, d'accord, mais il y a des problèmes. Lesquels?
Sí, ahorita tenemos un problema sobre una concesión para la explotación de madera.
Oui, en ce moment, on a un problème sur une concession d'exploitation de bois.
Nosotros como representantes de la comunidad hemos enviado cartas a las instituciones que tienen que ver con el cuidado del parque.
Nous, donc en tant que représentants de la communauté, on a envoyé une lettre, des courriers à l'administration qui devrait défendre l'environnement ici du parc.
Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun retour.
C'est une grosse exploitation.
Sí, es bastante grande y nos preocupa mucho.
Oui, c'est une grosse exploitation et ça nous préoccupe beaucoup.
Porque detrás de esto viene la minería, como tenemos el caso, ya hay una minería, una explotación de
oro y diamantes. Oui, ça nous inquiète d'autant plus qu'il y a aussi des chercheurs d'or et de diamants qui s'installent.
Y bueno, la contaminación del agua.
Et bien sûr, la pollution de l'eau que ça entraîne.
Hay problemas de droga.
Il y a des problèmes de drogue.
D'alcool. Sí. Son problemas bastante graves para una comunidad pequeña.
Donc c'est des problèmes assez graves pour une communauté petite.
Vous êtes combien dans votre communauté?
Aproximadamente 2500 habitantes indígenas.
On est à peu près 2500 habitants indigènes ici.
Et vous recevez 30 40 000 touristes chaque année?
Non, promedio de 28 000 touristes.
À peu près 28 000 en moyenne par an.
Mais je suppose que ça n'a pas dû être simple, hein, l'installation de cette base touristique ici avec vous, pour vous.
Sí, bueno, hoy en día sí, no ha servido como fuente de trabajo, ya que no queremos tampoco destruir mucho con la tala y quema de los conucos, pues.
Mais aujourd'hui, ça va mieux parce que déjà, ça nous permet de travailler et de limiter les dégâts de notre agriculture par brûlis.
Si, réduire un peu lo que es el, propiamente la costumbre nuestra.
Voilà, donc on a réduit un peu nos coutumes, donc de cultiver par brûlis, mais on ne veut pas les oublier non plus.
Si, el conoco es un área donde talan, o sea, es una montaña.
Donc le conuco, c'est une montagne.
Si. Talan la madera, cortan la madera.
On coupe le bois.
Lo queman.
On le brûle.
Y ahí hacen la siembra.
Et là, ça fait de l'engrais et on peut semer après.
Consumo de ellos mismos.
Pour notre consommation.
No para la venta.
C'est pas pour la vente.
Se utiliza dos veces. Y después se busca otro sitio, mientras esto se recupera.
Donc on peut le faire deux fois de suite et après, il faut faire un autre terrain en attendant que ce terrain se repose.
No se utiliza producto químico.
On n'utilise pas de produits chimiques.
Natural, todo natural. Y bueno, todavía sigue esa costumbre.
Donc cette coutume reste, hein, là, on n'a pas oublié.
Donc ça fait une assez bonne vie quoi ici. Vous avez une bonne vie ou pas?
Vamos a decirlo que sí, porque está la combinación de trabajo de turismo y más la cultura indígena.
Le tourisme avec notre culture indigène traditionnelle.
Est-ce que les choses ont changé pour vous depuis que Chavez est au pouvoir?
Sí, nos ayudó bastante con la nueva constitución.
Oui, il nous a beaucoup aidé avec la nouvelle constitution.
Hay un capítulo especialmente que habla sobre las comunidades indígenas.
Il y a un chapitre qui parle tout précisément justement des communautés indigènes et des aides qu'il faut leur apporter.
La organización, el respeto a las costumbres.
Donc le respect des coutumes.
Le soleil commence à se coucher là. On va pas avoir beaucoup de jours encore. Il est 6h moins.
Là de là, on va voir les chutes. Avec derrière,
et voilà, on aperçoit les chutes là-bas. C'est une splendeur.
Et ces saltos tienen cada uno su nombre.
Et chacune des chutes là, qui est là, a chacun son nom.
La primera de aquí, este lado, es Ucaima.
La première à droite s'appelle Ucaima.
La segunda es Cauchipa.
La deuxième, c'est Cauchipa.
L'autre, Vadaima. Y el otro, Irapa.
Et Birapa.
Y la que se pasa, la que se visita mucho, la turista que pasa debajo de la cortina del agua es Vacavena.
Et il y a celle que visitent beaucoup les touristes en allant en bas, en dessous, là où tombe là, c'est Vacavena.
Y el otro que no se ve para allá, hay un que se dice Poredopa.
Et il y en a une autre qu'on ne voit pas encore par ici qui s'appelle Poredopa.
Entonces nos paramos aquí un poquito.
Mirador Los Saltos.
Sí.
C'est magnifique, hein. Oh. Wow. On entend au loin, hein, les chutes. Et alors c'est l'heure parfaite. Le jour se couche un peu. Tout cet horizon de chutes, ce bouillonnement de chutes dans la verdure. Il y a quelques nuages lourds, mais le ciel est très très bleu, très intense. Et là-bas c'est plus sombre, il y a toute une masse... le mot violette, et là il y a un rang de le palmier avec qui accroche la lumière, c'est vraiment une pure splendeur. Et ces montagnes là devant nous?
Et c'est Cerro Venado, que en Pemón es Cusaritipu.
C'est la montagne Cusaritipu, on l'appelle en Pemón.
Mais ça c'est un tepuy.
Ah, et là où il y a un tepuy, c'est esa partecita que ustedes están viendo allá atrás.
On est là, si. Tu vois, là, le tepuy, c'est celui qui est derrière. Derrière cette colline-là, où on voit les nuages qui sont accrochés dans une espèce de plateau qui tombe à pic, comme ça.
C'est les montagnes rectangulaires. C'est les grands rectangles avec le dessus qui est plat. Hein, voilà, c'est ça, les tepuy. Et les massifs autour de nous, c'est ça.
Antes que llegara la gente extranjera, ella era muy sagrada.
Avant que viennent des étrangers ici, c'était des lieux très, très sacrés pour notre communauté.
Sí, porque parecía la tumba del cacique.
Parce que ça ressemblait à la tombe du chef, du cacique.
Et pour eso no se podía quemar la sabana, estaba prohibido quemar esa parte.
Dans cette région-là, c'était interdit de faire de la culture sur brûlis, de brûler la savane.
Sí, pero ahora al llegar los extranjeros se perdió. Casi
depuis que les étrangers sont venus, cette pratique, cette
coutume
s'est perdue.
Para los jóvenes,
en tout cas pour les jeunes.
Bueno, entonces seguimos a ver un poco.
Ok.
Donc, on continue un peu plus loin.
Ok.
Une splendeur vraiment cette région de Canaima, ce parc national de Canaima, donc je rappelle au sud-est du Venezuela. On est avec Cachira qui connaît bien son histoire et qui fait passer elle aussi ses idées et cette résistance, donc Pemón. Alors son mari José nous a fait état des problèmes de ces voleurs de bois. On a survolé, il nous a montré d'ailleurs effectivement, on a vu ses campements et ses vols de la forêt, l'or et les diamants, on en parlera. On a évoqué le problème des touristes et reste le problème des missionnaires. Et ça a toujours été un grand problème, évidemment. La colonisation des peuples et de leurs richesses commence toujours par la colonisation de leurs esprits. Ça, c'est une vieille coutume et qu'on connaît bien dans cette région. Alors on pourrait croire que c'est quelque chose qui appartient à l'histoire, et pas du tout. Ça continue. Les églises continuent de perturber la vie locale et de conquérir les âmes.
C'est super. Ah ouais, c'est magnifique.
La comunidad nacieron ellos, Robert, José. Estaba la gente bien, no había pelea, no había ese tipo de problemas hasta que llegó la religión adventista.
Ça, c'est nos villages au Valais, c'est le village d'où vient son mari.
Prohibieron comer.
José et Roberto. C'était un village où les gens vivaient en paix, sans conflit, jusqu'à ce qu'arrivent les adventistes.
Sí, porque primero cambiaron la forma de rezar, ya no se danzó, no se, está prohibido la danza de...
Déjà, ils ont arrêté tous les cultes qu'il y avait, ils ont changé toutes les prières, on ne pouvait plus chanter.
La forma de alimentarse, de comer aves, de comer la cacería, eso se prohibió, no se puede comer carne.
On ne pouvait plus manger de viande, on ne pouvait plus manger les oiseaux, ils ont complètement changé le régime alimentaire des gens.
Quand est-ce qu'ils sont arrivés?
Quizás en el año 60.
Dans les années 60, je crois.
Y luego, en el año 90, vino la reforma adventista.
Après, dans les années 90, sont arrivés les réformistes adventistes.
Sí, entonces se han puesto a pelear hermanos con primos, tíos.
Et à partir de moment, les gens ont commencé à se battre, et à se déconfier dans le sein des mêmes familles, entre les frères, les oncles, les cousins.
Sí, porque el tío de él y la tía, hermanas de su mamá,
l'oncle et la tante,
se convirtieron a la reforma.
Ils se sont convertis à la réforme adventiste.
A ellos, porque no se bautizaron, los nombraron como paganos.
Ni mon mari, ni mon beau-frère ne se sont convertis, et donc tout le monde les traitait de païens.
Sí, paganos.
C'est aujourd'hui que ça se passe comme ça dans cette région, et on arrive dans ce village. Cachira tient beaucoup à ce qu'elle nous emmène là, mais il n'y a rien dans le village. Il ne se passe rien. On est samedi et le village est désert. La nuit tombe, on aperçoit ces montagnes magnifiques, les chutes là-bas au loin, mais le village est désert, sauf quand même un peu de lumière et quelques ombres qui se hâtent vers l'église.
On peut faire quelques pas dans le village un peu.
Sí, yo se puede meter. Sí, que están ellos preparándose para entrar a su culto.
Les gens sont justement pas dans les allées du village parce qu'ils sont tous en train de se préparer avant d'aller à la messe.
Voilà.
Si queremos podemos visitar la iglesia.
Si tu veux, on peut visiter l'église.
Ah bah oui, pourquoi pas.
Vous expliquez qu'ils sont venus, ils vont arriver aujourd'hui, le pasteur et son épouse, ce sont des gens très cordiaux, mais que néanmoins ce sont des envahisseurs.
Ouais.
En gros, il est assez hostile.
Oui, oui.
Hola. Hola, pasteur.
Bueno, aquí somos una comunidad religiosa.
Donc ici, on est une communauté religieuse.
Et nos guiamos por los principios de la Biblia.
On est guidé par les principes de la Bible.
Et originalmente, como todas las comunidades indígenas, ellos tenían ciertas creencias en espíritus y cosas de estas.
À l'origine, comme toutes les communautés indigènes, ils avaient des croyances.
En la medida en que han tenido conocimiento de la Biblia, han abierto su corazón a Jesús y ahora viven conforme a los principios de la Biblia.
Et dès qu'ils ont eu connaissance de la Bible, donc ils ont pris les préceptes de la Bible, ils ont ouvert leur cœur à la Bible.
Au message de Jésus. Pardon. Et donc ça a été tout de suite mieux.
Indudablemente, porque habían ciertas creencias que alienaban la conducta y el comportamiento de la persona, que es como esclavizante ciertos temores, y al salir de todas esas costumbres o prácticas o creencias esclavizantes, ahora viven un tipo de vida diferente, mejor.
Sans aucun doute, ils étaient esclaves de leurs croyances et avec cette nouvelle foi, cette nouvelle religion, ils ont été libérés de beaucoup de croyances néfastes.
No solamente lo vemos desde el punto de vista espiritual, sino aún en lo intelectual, es decir, tienen una mentalidad más amplia, más abierta y una capacidad de entendimiento mucho más completa, más profunda.
Donc ce n'est pas qu'au niveau spirituel, mais aussi au niveau intellectuel qu'ils ont beaucoup gagné avec la religion.
Ajá. Et au plan politique aussi, non?
Nosotros somos apolíticos, es decir, no participamos de ningún tipo de política.
Donc nous sommes apolitiques, nous ne participons à aucun mouvement politique.
Ello es debido a que, como Jesús declaró enfáticamente, el reino de Cristo no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros no luchamos por los intereses terrenales, sino por intereses espirituales.
Parce que le règne du Christ ne s'intéresse pas aux choses matérielles. Mais...
Le règne du Christ n'est pas de ce monde.
Voilà. Tout à fait.
Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde.
Le royaume de Dieu n'est donc pas de ce monde.
Je crois qu'on a un très mauvais traducteur. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour aller jusqu'au bout de ce moment quand même où on rencontre la foi.
Ok, c'est...
Okay. Bueno, la messe commence.
Si quieren estar con nosotros en la iglesia, les invitamos que participen.
Vous êtes invités à participer à...
On va essayer. En tous les cas, okay. Merci beaucoup.
Okay.
Merci.
Merci. Merci.
Okay. Dieu vous bénisse.
Roberto no va a cobrar no sé cuánto.
Roberto va nous prendre beaucoup, il nous attend avec la voiture. Il faut y aller. Je ne veux pas trop traîner ici, c'est pas la peine de trop traîner.
Hay dos cosas que yo critico personalmente.
Moi, il y a deux choses qui me gênent personnellement.
Sí, que es el dinero.
L'argent.
Y el pecado.
El péché.
Ah. Porque el dinero trajo el egoísmo.
Parce que l'argent amène l'égoïsme.
El ladronismo.
Le vol.
Trajo el engaño.
La filouterie.
En nuestra comunidad no se practicaba la venta ni la compra.
Dans notre communauté, à l'origine, il y avait ni vente ni achat.
No. Solo se practicaba el intercambio.
C'était le troc qui se faisait ici.
Sí. Y nada tenía precio.
Et rien n'avait de prix.
Sí. Y el otro, el pecado, como dije.
Et l'autre chose qui me gêne, c'est le péché.
En el mundo Pemón existía el bien y el mal.
Parce que dans le monde Pemón, il y avait le bien et
sí.
Le mal.
Pero no había pecador.
Mais il n'y avait pas de pécheur.
No había santo.
Il n'y avait pas de saint.
No existía el diablo. Ni el ángel.
Il n'y avait ni diable ni ange dans notre culte Pemón.
Oui, mais si tu trompais ton mari, par exemple.
No había adulterio.
Il n'y avait pas d'adultère.
No había.
Ah, ben comment?
Había. Porque en nuestra comunidad no se conocía el adulterio. Que un hombre podía tener 8 esposas.
Il n'y avait pas d'adultère dans notre société, dans notre culture. Un homme pouvait très bien avoir 8 épouses.
Mais est-ce que oui, les 8 épouses pouvaient avoir 8 hommes chacune?
8 hombres. No, porque las mamás se lo daban al hombre, no era el hombre quien se lo llevaba.
C'est-à-dire que c'était les femmes qui s'offraient à l'homme, et c'est pas l'homme qui choisissait les femmes.
Ah.
Ajá. La mamás, si tú Gib trabajaba mucho, decían, Gib necesita otra mujer.
Par exemple, si moi, Gib, je travaillais beaucoup, et ben, les femmes diraient, mais il travaille beaucoup, il a besoin d'une nouvelle femme, il a besoin d'une autre femme, d'une seconde femme.
Ah.
Y porque de repente cazaba, buscaba comida.
Es que fallait aller chasser, il fallait prendre du manioc.
Entonces, para que viviera bien, la muchacha, la joven, te lo daban a ti y no al flojo.
pour pouvoir bien vivre, pour avoir une bonne vie, les femmes s'offriraient à moi et pas aux faibles.
Ah oui. Donc le fort, il a plus de femmes.
Sí. Entonces, no había pecado.
Donc il n'y avait pas de péché.
No había adulterio.
Pas d'adultère non plus. No.
Y bueno, y pero después cuando llega las religiones, empezaron a quitarle las mujeres a los caciques, porque eso era pecado mortal.
Ouais. Et donc, quand les religieuses sont arrivées ici pour baptiser les gens, bah, les femmes qui étaient plusieurs femmes pour un chef les ont quittées parce que c'était un péché mortel. C'est ça.
Et les mamans et les padres pimones disent que ahí comenzó l'adulterio.
Et les pères, les anciens pimones, on dit que c'est à partir de là qu'a commencé l'adultère. Bueno, ustedes pueden cantar si quieren también, si la conocen en la televisión. Empezamos una. ¿Cómo se llama usted?
María.
María
Pérez.
María Pérez.
Wakujos maimo, te cone canto, está chimpanto, te cone canto, está chimpanto. Mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando. Cuacurio maimu, cuacurio maimu. Eco ne canto, estao chimpanto. Eco ne canto, estao chimpanto. Mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando, mensaje llenando. Wakujo maimu, wakujo maimu, eko ne kanto, eko ne.
C'est pas tous les jours quand même qu'on entend cette langue Pémone sur France Inter, hein, quand même. Merci à tous, merci au Pémone, merci à Casilda Kachira, merci au capitaine, le cacique José Simone, merci Patrick Desex, Rachel Caruel. Et à tous, Guy Vanctil, reporter et traduction, Antoine Chao, traduction, un livre formidable sur ces histoires d'Indiens et de journalistes. Un bouquin de Patrick Tiernet qui s'appelle « Au nom de la civilisation, comment anthropologues et journalistes ont ravager l'Amazonie ». C'est un bouquin absolument formidable, notamment pour ce qui concerne les Yanomami, l'approche des Yanomami dont je parlais tout à l'heure. Toutes les informations sur musique, livres, etc. sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui Alain Arnstam et Philippe Jurado. Réalisation Antoine Chao, l'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Yann Chouquet, c'est Raphaël Moutarde, c'est Pascal Le Pascarello et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Je rappelle le mail de l'émission, daniel.mermet@radiofrance.com. Dans un instant, au bout de 2 minutes et 10 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Et nous, on se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis. Salut.